ne pouvais pas faire autrement. Tu comprendras, c'est pas de ma faute, tu le verras. C'est pas de ma faute, tu le verras. Pourquoi que t'as pris l'homme de ma vie simplement pour passer la nuit? Pourquoi que t'as laissé ton vieux père dans un caniveau l'autre hiver? C'est pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement. Tu comprendras, c'est pas de ma faute, tu le verras. C'est pas de ma faute, tu le verras. Pourquoi que t'as mis du verre pilé dans le café du vieil Amédée dont tu as pris l'appartement une heure après l'enterrement? C'est pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement. Tu comprendras, c'est pas de ma faute. Voici pourquoi je suis égoïste.
Un peu de pain, un peu d'eau fraîche, l'ombre d'un arbre et tes yeux. Aucun sultan n'est plus heureux que moi, aucun mendiant n'est plus triste.
Femme qui ressemble au vent, même dans la douleur. Femme qui prend le temps de connaître par cœur. Femme qui fait la vie d'une fleur de mégot. Femme qui prend le pli pour le moindre tango. Femme les hanches dormantes sous la mort tout en verre. Femme sein de mort sûr pour virer à l'envers. Femme jambes qui filent sur le trottoir trop vieux. Quand la lune de sel étire son échine. Femme de tous les crimes, femme de tous les jeux, femme de la vitrine, femme du besogneux. La femme éclatement de la vie par le ventre, espoir de ma lutte, multiple vérité. Femme, regarde ma tête, poète déplumé. Ma tête qui déborde sur tous les encriers. Prends mon cerveau tout chaud, encore de ma pensée. Pose-le sur ton ventre et dis réalité.
Oh Malou, oh Marilou,
c'est pour toi. Et un point, c'est tout. Tes yeux et ta fève. Oh Malou, oh Malou, oh Marilou, fais gaffe, je te rends dans le chou.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme presque tous les mercredis matins, de 9h30 à 10h30. Et aujourd'hui, eh bien, Sylvie est présente dans le studio. Bonjour Sylvie.
Bonjour tout le monde.
Et on va commencer par un commentaire sur l'actualité. Alors, il s'agit de toutes ces discussions qui ont lieu autour de cet attentat au 17 rue de Grenelle qui est arrivé samedi 2 décembre et où les débats font... donc, la question se pose, est-ce que c'était un fanatique religieux, mais est-ce que c'était pas non plus un fou donc, de quel côté basculer, etc. On écoute bien un extrait du journal de d'Arte Journal le 4 décembre 2023, deux jours après l'événement, et où est évoqué un ratage psychiatrique par le ministre de l'Intérieur. Alors on écoute ça tout de suite.
De nombreuses questions se posent encore après l'attaque au couteau de samedi soir près de la Tour Eiffel. L'assaillant a-t-il agi seul? Comment a-t-il pu passer entre les mailles du filet alors qu'il était fiché S et qu'il souffrait de troubles psychiatriques? Pour Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, c'est un ratage psychiatrique. L'auteur de l'attentat avait arrêté tout traitement en avril dernier sur le conseil de son médecin. Son profil avec David Arnold.
Armand Rajab pour Mian Doab était-il fou ou était-il au contraire conscient de ses actes, influencé par une idéologie islamiste? Ce jeune Français d'origine iranienne vivait ici à Puteaux, en région parisienne, dans une famille dénuée de tout engagement religieux. Converti à l'islam à 18 ans, il se radicalise très vite. Emprisonné 4 ans pour un projet d'attentat, il est libéré en 2020, puis suivi médicalement jusqu'en avril 2023. Au début de l'automne, sa mère tire la sonnette d'alarme.
Fin octobre 2023, la mère de l'agresseur avait signalé son inquiétude
quant au comportement de son fils qui se repliait sur lui-même. Toutefois, aucun élément n'avait permis de susciter de nouvelles poursuites pénales dans ces circonstances.
Pas de poursuite ni d'hospitalisation de fils possible par le préfet dans son cas. Les médecins, de leur côté, avaient estimé qu'il allait mieux. Avec ce nouvel attentat, le ministre de l'Intérieur parle d'un ratage psychiatrique et souhaiterait donner plus de pouvoir au préfet.
Je redis mon souhait de travailler avec les parlementaires à cette injonction de soins psychiatriques que pourraient obtenir les préfets dans les conditions extrêmement difficiles que nous avons à gérer. Un certain nombre de personnes qui sont dans l'islamisme radical et qui sont atteintes de maladies mentales.
Seulement voilà, le présumé terroriste a entretenu des contacts avec de nombreux djihadistes. L'assassin du père Hamel en 2016, celui des deux policiers à Magnanville en 2020, celui de Samuel Paty enfin. Il a également prêté allégeance au groupe État islamique en Afghanistan. Un parcours qui pourrait laisser croire que le jeune homme était bien motivé par une idéologie destructrice.
L'analyse psy, elle est fondamentale. Je ne peux pas me prononcer en l'espèce sur ce sujet-là, mais ce que je dis, c'est qu'il faut évidemment la combiner avec une solide connaissance de la dimension idéologique, parce que si on prend de l'idéologie pour de la folie, ben on fait des erreurs d'évaluation.
Malade, djihadiste ou un peu des deux. Une chose est sûre, quand sa mère s'inquiète en octobre, c'est le début de la guerre à Gaza. Armand Rajapour Miandoab pourrait avoir été influencé par l'actualité, un phénomène de décompensation, disent les psychiatres, qui se traduit chez les personnes fragiles par un effondrement psychique provoqué par un événement inattendu et délétère.
Armand Rajapour Miandoab, c'est son nom. Et son surnom, c'est entre guillemets l'assaillant. Donner plus de pouvoir au préfet pour les injonctions de soins psychiatriques, telle est la proposition du ministre de l'Intérieur. Et on a entendu Hugo Micheron sur France Inter, chercheur en sciences politiques, spécialiste du Moyen-Orient, dire quelque chose d'assez intéressant. Si on prend de l'idéologie pour de la folie, on fait une erreur d'évaluation. Alors, pour le ministre de l'Intérieur, on l'a dit, on l'a entendu, c'est un ratage psychiatrique. On voit qu'avec le gouvernement Macron, on est dans la continuité de la politique de Sarkozy en 2008, l'association du trouble mental et de la dangerosité. Ça continue. On souhaite renforcer les internements psychiatriques à la demande des représentants de l'État. Alors ce journal d'Arte a été suivi d'un débat dans l'émission qui est aussi elle-même quotidienne, qui s'appelle 28 minutes, sur Arte toujours donc. Et c'était autour de cette question et de la déradicalisation, cette démarche de déradicalisation des personnes dites terroristes. Alors ce ratage psychiatrique est évoqué aussi. Donc on a une citation de Darmanin, qui est un peu différente aussi, je crois, de celle qu'on a entendue. C'est un ratage, non pas dans le suivi des services de renseignement, mais il y a eu un ratage manifestement psychiatrique, puisque les médecins, à plusieurs reprises, ont considéré qu'il allait mieux. Oui, je crois qu'on l'a entendu. Et là, on voit que, très bien, on pense distinguer quand même un dédouanement, une déresponsabilisation du ministère de l'Intérieur. Il s'agit quand même pas de personnes qui sont inconnues des services, passées par les services de police, de renseignement, de la justice, qui sont condamnées, puis qui sont suivies. Ces services se sont quand même donnés responsables de la sécurité des citoyens, etc. Donc, c'est un petit peu gros. Alors, cette émission, donc ce 28 minutes, qui invitait Mathieu Suc, journaliste à Mediapart, Béatrice Brugger, magistrate, et Eliamine Setoul, sociologue spécialiste défense et sécurité à l'IRSEM, directeur du certificat de prévention de la radicalisation du CNAM, du Centre National des Arts et Métiers. Donc, ces trois personnes ont débattu autour de la radicalité, de la déradicalisation, etc. depuis 2015, par exemple, dit Eliamine Setoul, des médiateurs religieux, donc qui ont des connaissances coraniques, développent une disputatio, c'est-à-dire verset contre verset, sourate contre sourate, pour démonter la logique du terroriste. Alors, l'histoire de cette personne, Armand Rajapour Mian Doab, on peut la donner aussi. En 2020, il annonce qu'il est déradicalisé. Mais apparemment, il fait juste entendre ce qu'on lui demande. Vers 2014-2015, il se radicalise, donc là, officiellement, par rapport à son engagement, il est interpellé en 2016. Il n'a alors pas de problème psychiatrique à cette période-là. Ça, ce sont les informations données par les invités de cette émission. Il est incarcéré cette même année, donc 2016. Il fait 4 ans de prison. Et c'est là qu'apparaît des crises d'angoisse. Mais reste encore accessible à une sanction pénale, selon un magistrat. Et puis, à sa sortie de prison, il fait 3 ans de psychiatrie entre 2020 et 2023. Et il faut rappeler aussi que dans les prisons françaises, 20% de détenus sont atteints de troubles psychiatriques, selon Béatrice Brugger. Qu'est-ce que ça veut dire déradicalisation? Alors, c'est pas très difficile pour faire court. C'est quelqu'un de radicalisé, c'est quelqu'un qui s'est engagé, qui prend l'engagement de devenir un martyr, et c'est une position éminemment politique. Voilà. Alors, je disais que on parlait des prisons et donc Béatrice Brugger, magistrate, insiste pour dire que l'incarcération aggrave les pathologies. Ces pathologies. Parce que les détenus atteints de troubles psychiatriques, les 20%, c'est plutôt de troubles psychotiques, c'est-à-dire de troubles vraiment graves, paranoïa, sévère, etc. Voilà le commentaire sur cette actualité.
Juste une parenthèse,
oui.
Comme je t'avais dit, je m'y connais pas beaucoup en résistance à la psychiatrie, mais en revanche, ma spécialité c'est un peu tout ce qui peut être d'ordre criminel, enfin les histoires vraies criminelles, tu vois, j'ai même écrit des articles là-dessus,
oui.
Et dans des journaux spécialisés dans les histoires vraies criminelles, et je peux vraiment affirmer que statistiquement, et puis même tout simplement tout court, les experts psychiatres, c'est n'importe quoi, mais n'importe quoi, hein. Et les histoires abondent de psychiatres qui, en fait, on m'a pas entendu du coup.
Si.
De psychiatres qui ont décrété que soit t'es pas guéri et tu, enfin, on peut pas savoir du coup comme tu sors pas, etc. Mais qui, le nombre de fois où ils sont simplement plantés, c'est faramineux.
Ah oui, oui, oui. C'est en tout cas, l'idée d'un ratage psychiatrique n'est pas complètement...
Non, voilà, c'est pas un ratage, c'est l'air qui respire. C'est comme quand on dit bavure policière, tu te dis c'est leur nature même.
Voilà. Donc, il y a peut-être une... il y a une correspondance entre la psychiatrie et ces centres de déradicalisation, quoi. C'est-à-dire, ils ont peut-être en commun que ça marche pas.
Oui, c'est ça, voilà, déjà. Donc, on met une musique entre deux ou tu veux qu'on passe au sujet?
On passe au sujet, donc un sujet que j'ai pas annoncé au sommaire, qu'on peut annoncer
dès
maintenant.
Donc c'est la semaine dernière, il y a 2 semaines, hein. 2 semaines, c'est ça, ou 3, je sais plus, 2. Enfin, donc on avait parlé du livre de Patrick Declercq, Les Naufragés, sur les clochards de Paris, et là il a écrit un autre livre, il est décédé hein, maintenant, Patrick Declercq. Mais il a écrit un autre livre qui s'appelle « Le sang nouveau est arrivé », où il crache, vomit, pisse, chie sur tout ce qui peut être ce qu'il appelle par ailleurs les dames patronesses, à savoir l'état d'esprit caritatif. Et si tu peux lire simplement le résumé qu'il y a au dos du livre.
Oui.
Et tu vas avoir le rapport avec l'entonnoir.
Clodo est là pour enseigner cette terrible vérité. La normalité est sans issue. Sous le masque bienveillant de nos démocraties se cache cette totalitaire injonction. Citoyen sera productif ou, lentement et sans bruit, mis à mort. Qu'on ne s'y trompe pas, la souffrance des pauvres et des fous est organisée, mise en scène, nécessaire. La République tout entière verse des larmes de crocodile à la mémoire de nos chers disparus de la rue. Clodo vivant embarrassait, voici son cadavre, garantie pure misérable hypothermique, déclarée d'utilité publique.
Oui. Voilà, donc y a d'autres passages pour voir un petit peu tout le bien qu'il pense donc de la notion même de charité, qu'elle soit publique ou privée, quoi.
Oui.
Et je vais faire juste une parenthèse. À un moment donné, il parle de, c'est même très significatif, le fait que c'est pas une blague. T'as dû le constater. Mère Teresa, sœur Emmanuel sont des icônes de la bonté, de la bienveillance. C'est quand on, il explique que quand on interroge les gens sur leur personnalité préférée, il y a sœur Emmanuel qui arrive quasiment en tête de liste et tout. Et je me rappelle qu'à une époque, on pouvait quasiment pas demander à quelqu'un, enfin une personnalité, quel était son modèle de beauté, sans qu'il réponde c'est Mère Teresa, car sa bonté transparaît, sa bonté intérieure transparaît sur son visage. Et ben, je peux vous dire que sa beauté intérieure, elle valait largement sa beauté extérieure, quoi. Et elle l'a dépassé même de pas mal de coudées. Je sais pas si t'es un peu au courant de ce qui était ce personnage en réalité.
Pas tellement,
non, c'est pire
mais...
que ce que tu crois.
Ouais,
c'est
oui. Bon,
c'est-à-dire qu'en réalité, sa fondation ramassait vraiment des millions.
Oui.
Parce que, bah, oui. Et ben, sauf que dans les hôpitaux, des gens qui sont allés enquêter dans les hôpitaux qu'elle dirigeait, les gens n'étaient pas soignés. Elle déclare d'ailleurs carrément, comme sœur Emmanuel d'ailleurs, que la souffrance, la misère et tout, c'est quelque chose de positif. Que d'ailleurs, les gens qui sont dans la misère ne souffrent pas du tout. Que ça, c'est les riches qui ont besoin de tranquillisants.
Ah oui.
Bah oui, parce qu'ils sont malheureux. Quand t'es riche, t'es malheureux. Alors que quand t'es pauvre, tu baignes dans le bonheur. Tu vois. Mais
oui.
J'invente rien.
Oui, oui, oui.
Et puis par ailleurs, cette ordure, je cherche le mot. Enfin, franchement, les deux feraient vraiment gerber un asticot, quoi, les deux. Mais en plus, elle fricote avec tout ce qu'il peut y avoir de pire. Ben, par exemple, elle a eu des récompenses, Mère Teresa de Duvalier. Tu vois, enfin, oui, quand même. Hein. Et puis, elle déclarait aussi des trucs comme ça. Les gens, il fallait pas les soigner. Quand ils souffraient, c'était une chance pour eux. Ils seraient les proms au paradis. Cela dit, elle devait pas y tenir tant que ça au paradis, parce que quand elle est tombée malade, elle s'est pas fait soigner dans un de ces hôpitaux pourris, où les gens n'étaient pas soignés, quoi, de fait. La souffrance s'appelait à Dieu et tout. Mais elle allait quand même se faire soigner dans un hôpital américain haut de gamme, je te rassure. Bref, c'est... Voilà, ce que c'est, enfin, ces modèles de ce qu'est la bonté, de ce qu'il faudrait être en tant qu'humain, représentent, pour qu'on trouve que c'est des modèles, sans même aller voir ce qu'il en est d'ailleurs, mais l'idée même de charité le fait carrément vomir, quoi. Donc... par exemple, voilà comment il décrit, c'est pas très long, après peut-être on pourra peut-être, il y a d'autres passages qui sont vraiment intéressants sur le sujet. Tu vois, à partir de là, jusque là, tu vois, description d'un caritatif type.
Voilà, alors donc, nouvel extrait de « Le sang nouveau est arrivé, l'horreur SDF » de Patrick Declercq. Il conviendra ensuite d'expliquer à la poignée d'hypertriglycériques qui vous écoute, avec ce mélange d'excitation et de mépris secret réservé aux hommes de terrain, que contrairement à ce que l'on pourrait croire, vous ne lui avez rien apporté à lui, l'autre. L'autre pouvant indifféremment être indien famélique, rescapé génocidaire, sidéen congolais ou clodo de la contrescarpe, peu importe. Pourtant, direz-vous, faux naïf, pourtant, au début, j'avais des illusions, je me sentais fier et porté par mon savoir hautain d'occidental, de médecin, de soignant, de rationaliste. Ici encore, les variantes abondent et se valent. Et puis, baissez à présent la voix d'une demi-octave pour bien montrer que les choses deviennent sérieuses. Ce n'était pas aussi simple. Progressivement, j'ai mesuré à leur contact la relativité de toute chose. Ça ne veut rien dire, mais les ploucs confondent souvent cela avec la profondeur. Petit à petit, mes certitudes se sont envolées. Et maintenant, je me demande si ce ne sont pas eux qui m'ont plus appris que je ne leur ai, moi, apporté. Cette inversion des rôles entre maître et élève, soignant et soigné, arroseur épistémologique bien heureusement arrosé, est du dernier cri démocratique. Elle relève à la fois de l'invasion hiérarchique d'un égalitarisme forcéant et du fétichisme plaisamment rousseauiste du bon sauvage. Voilà, il ne vous reste qu'une dernière touche à apporter pour conquérir définitivement le cœur palpitant des femmes de dentistes de votre auditoire. Méditatif, le regard à la fois lointain et intérieur, vous ajouterez « Au fond, c'était un voyage initiatique ». Là non plus, personne, et surtout pas vous, n'a la moindre idée de ce dont il s'agit. Initiation à quoi, par qui, comment et pourquoi faire? Mais cela n'a aucune importance. Vous brillâtes. Un instant, vous fûtes divertissant, et c'est bien tout ce qui compte. On s'ennuie tellement dans les dîners.
Oui, je sais, tu vois, c'est un peu bon.
C'est explicite. Hein, ça, c'est
oui, ça. Voilà, et ouais. Il en a aussi pour les Restos du Cœur, dont il souligne d'ailleurs quelque chose. Je me disais, est-ce que c'est... Enfin, il dit qu'à son avis, ce n'est pas... On pourrait croire qu'il y a un passage... Moi, je me disais, c'est juste peut-être une faute de français. Ce que je trouve un petit peu surprenant, parce que c'est quand même pas écrit par le dernier de la classe en primaire, le texte, tu sais, des Restos du Cœur. Mais à un moment, ils disent aujourd'hui on n'a pas le droit d'avoir faim ou d'avoir froid, donc il dit le droit. Comment ça le droit? Mais en fait il explique que c'est, à son avis, c'est pas du tout une erreur de langage. Il y a quelque chose, c'est-à-dire que par exemple des fois on voyait avec le livre Les Naufragés, des fois on veut le bien des SDF complètement à l'encontre de ce que demandent. En revanche, ils parlent quand même, on est en plein hiver, vous devez avoir très très froid dès que vous mettez le pied dehors, et du coup, à quel point on se soucie tout d'un coup, on se rend compte comment c'est dur d'être à la rue quand il fait froid. D'ailleurs, ils meurent, donc là, on s'en rend compte. Et dans Les Naufragés, il expliquait pourquoi, normalement, même quand on est très, comment dire, réfractaire à l'idée de la normalité, malgré tout, quand tu crèves de froid vraiment, enfin au sens littéral d'ailleurs du terme, tu devrais être ok pour aller dans des centres. Et il explique pourquoi il préfère encore mourir de froid plutôt que d'aller dans des centres, à cause de la manière dont c'est conçu, en particulier par des bureaucrates. C'est épouvantable, quoi.
J'ai souvenir d'un... donc j'ai entendu des gens, en fait, un mouvement qui... ils veulent instaurer une sécurité sociale alimentaire. Bon, c'est un mouvement politique et tout. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai entendu, ce qui m'a frappé, c'est le fait qu'ils parlent de violence alimentaire par rapport aux gens à qui, justement, qui sont dans la rue, à qui on distribue des soupes, etc. Et parce que on leur impose un menu, on leur impose quelque chose. Sans du tout considérer de quoi ils pourraient avoir envie ou besoin. Voilà. Et c'est ce qu'ils appellent la violence alimentaire.
Mais d'une manière générale, enfin d'ailleurs, De Clercq dans l'autre livre parlait de lui-même quand il était au RSA, quoi. Et il disait que, puis c'est l'évidence même, quand on est riche, plus on a de liberté, c'est-à-dire plus de possibilités de choix dans tous les domaines. C'est-à-dire que quand t'es pauvre, tu prends la maison qui a bien voulu de toi, si t'as du bol, et que de pouvoir avoir une maison. Tu manges ce que tu peux, qui est dans tes prix. À moins de faire de l'autoréduc, tu manges ce qui est dans tes prix. Et c'est pareil dans des tas de domaines. J'avais discuté de ça avec des copines qui disaient, enfin, que je soupçonne d'avoir été légèrement raciste, mais qui disaient que c'était une honte que des femmes musulmanes s'étaient mobilisées pour ne pas avoir des gynécologues hommes. Or, c'est con, mais je veux dire, quand tu te retrouves, quand t'as pas de fric, toi par exemple, t'es enceinte, tu dois aller à l'hôpital, attendre des plombes, évidemment, et puis c'est pareil, moi j'ai horreur d'avoir un gynécologue homme, horreur, hein, vraiment, mais je choisis pas. Tu choisis rien, de toute manière, quand tu... Enfin, je veux dire, pour commencer à pouvoir choisir ta nourriture, ton logement, ton médecin, il faut déjà quand même être minimum de la classe moyenne, je dirais.
Oui, d'accord.
Voilà.
Bah, on va faire une
petite pause.
Oui. Voilà, on est de retour à l'antenne. C'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste.
Oui, donc, en fait, on pourrait dire, alors, qu'est-ce que tu proposes? Il faut quand même bien leur donner à manger, les gens qui ont faim, et leur proposer de les mettre quelque part quand il fait froid et tout. Mais, en fait, ben, ce que préconise... En fait, Patrick Declercq, c'est une révolution sociale et libertaire, quoi. Non, mais je veux dire, il dit que dans le cadre de ce système, il faut rien espérer. Enfin, on peut peut-être un petit peu limiter les dégâts, comme dans tous les domaines, d'ailleurs. On peut espérer peut-être, et dans le domaine de, effectivement, du traitement de la folie, entre un milliard de guillemets, c'est raccord avec le système où on est. C'est comme demander qu'il soit vraiment quelque part humain et même simplement humain, humaniste, enfin ayant l'égalité, c'est pas l'essence même de ce système. Ce serait comme demander à un psychopathe, un serial killer, dire c'est quand même pas gentil de tuer les gens. Ouais. Si tu leur offrais plutôt des fleurs et des chocolats.
Mais ça me fait rejoindre l'idée de la déradicalisation où on va essayer d'inculquer les principes de la République à des personnes qui sont pas du tout de cette culture-là.
Non, et puis, quelque part, ça rejoint ce qu'il dit effectivement quand on a fait l'émission sur les naufragés, sur l'idée que c'est vraiment l'altérité et qu'on n'a pas, on essaye de projeter. Y a des choses qui sont en commun avec tous les humains. Pas vouloir mourir de froid, par exemple. Mais en fait, sur des tas d'autres domaines, c'est pas du tout le... Enfin, il insiste sur la différence qu'il y a entre SDF, c'est-à-dire quelqu'un qui subit une situation pratique, qui se dit, entre parenthèses, comme t'as été comme moi sur le terrain dans des squats où il y avait des gens qui n'avaient pas d'autres moyens de se loger que d'être dans un squat, on sait que quand même la plupart des gens, c'est quelque chose de différent. Les gens, ils voudraient pouvoir se mettre quelque part et puis on criait rappelle-toi occupation et les logements sont vides, occupation et les loyers sont trop chers. C'est un problème d'ordre pratique qui est pas prêt d'être résolu. Si tu veux, c'est vrai, on pourra faire les lois de réquisition et tout, c'est une blague.
Oui, oui. Il y a une nouvelle encore dans le 28 minutes d'aujourd'hui. Je vais la chercher parce que ça parle justement de ça.
De ça, oui. De toute façon, les chiffres sont là. Et c'est pas faute quand on dit, ah oui, mais il n'y a pas d'endroit pour mettre les gens. et tout, mais si, il y a plein d'endroits pour mettre les gens. Les lieux qu'on occupait. Ah oui, parce qu'en ce moment, on fait tout un battage sur les squatteurs qui occupent des malheureuses personnes âgées qui, du coup, se retrouvent elles-mêmes à la rue. Jamais, jamais, quand on est un squatteur militant, on occupe un logement qui est déjà occupé par quelqu'un. C'est justement, on occupe des logements qui sont vides et des fois depuis des années.
Oui.
Hein, faut quand même le souligner, hein, parce que t'as remarqué qu'en ce moment c'est vraiment le truc à la mode, quoi, de taper sur des squatteurs qu'on présente comme des gens, ils rentrent chez toi quand t'es en vacances et après ils cassent tout. Enfin bon.
Ouais. Oui, c'est encore un durcissement législatif par rapport. Voilà, serre la vis, quoi. Alors, c'est un article donc de 20 minutes du mercredi 6 décembre 2023, c'est-à-dire aujourd'hui. Génération inoccupée, donc c'est le chapeau, c'est « Les élus parisiens à l'Assemblée s'attaquent au problème des logements vacants dans la capitale
». J'y crois beaucoup.
Après toucher son coude avec sa langue, trouver un logement à Paris est peut-être l'une des choses les plus difficiles. Chaque annonce postée reçoit plusieurs centaines de dossiers de candidature. Ce mercredi, une proposition de loi pour rééquilibrer l'offre de logements arrive à l'Assemblée nationale. Les élus parisiens y ont ajouté des amendements pour lutter contre les logements inoccupés via une taxation renforcée. Car c'est la pénurie qui est la principale raison de la tension des logements à Paris. Selon un rapport présenté mardi par l'Atelier parisien de l'urbanisme, le nombre de logements inoccupés a explosé ces dernières années de 14,1% en 2011 selon l'INSEE. Leur nombre atteint 18,8% en 2020. Près d'un logement sur cinq à Paris est donc inoccupé, c'est-à-dire qu'il n'est pas une résidence principale. Un chiffre fou au regard de la demande et du mal logement actuel. Ces logements inoccupés sont soit des logements vacants, soit des logements occasionnels utilisés pour des besoins professionnels, soit des résidences secondaires. Pour les premiers, leur part évolue peu ces dernières années. La grosse partie de cette vacance est expliquée par la rotation des ménages entre déménagement et emménagement et tourne en général autour de 7%. Ce sont les deux autres catégories qui explosent. Malgré une fiscalité plus dissuasive depuis 2017, majoration de 60% de la taxe d'habitation, les résidences secondaires et occasionnelles représentent 9,6% du parc parisien. Le plus surprenant, dans le rapport de la Pure, donc à l'Atelier parisien de l'urbanisme, vient des propriétaires de ces logements. Près de la moitié, 42,5%, sont franciliens. Une partie d'entre eux peut justifier cette résidence secondaire par le télétravail. En effet, 48% de la population active francilienne pratiquerait le home office et un tiers de celle-ci a accès à un deuxième logement. Mais le télétravail n'excuse pas tout. Selon les chiffres de l'INSEE, 64% des propriétaires de résidences secondaires sont âgés de 60 ans et plus. Mieux, à Paris, 50% des logements du parc privé appartenant à des particuliers sont possédés par des ménages qui possèdent 5 logements ou plus en France. On est loin du pied-à-terre pour le boulot. En augmentant la taxation sur ces résidences secondaires, les logements occasionnels pour raisons professionnelles ne sont pas concernés, la ville de Paris essaie de pouvoir remettre sur le marché jusqu'à 100 000 logements. Le droit individuel à posséder des résidences secondaires ne doit pas empiéter sur l'intérêt général et le droit à être logé, a commenté Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo.
Ah oui, d'accord. Mais ce qui est fou, c'est que sur la question justement de, quand on est sur les luttes de logement, c'est quelque chose que c'est pas seulement qu'on le sait intellectuellement, on le vit. Et je crois pas que tu avais participé à cette occupation parce que elle avait été très claire, comme très souvent malheureusement. Je veux bien qu'ils sont là toujours à te parler à la télé des gens que tu peux pas faire sortir. Je comprends pas très bien ce que c'est que cette histoire parce que même au mépris de on disait on peut pas te virer la nuit, on nous a déjà viré la nuit. On peut pas te virer le dimanche, on nous a déjà viré le dimanche. Et le truc qui m'avait le plus marqué, c'était en fait on était rentré dans un logement qui était vide aussi depuis des années. Mais on était très surpris en rentrant, enfin dans le squat quoi, de voir des affiches qui disaient un logement c'est un droit. Enfin ça fait toujours un drôle d'effet. Oui. C'était en fait ça appartenait au Parti communiste. Mm-hmm. C'était dans le 14e, je crois que c'était rue du Château, il me semble. Mm-hmm. Et donc le truc pour en dire c'est que on s'est fait bloquer à l'intérieur. On était restés, enfin, il y en avait qui s'étaient déjà barrés, mais nous, on était restés bloqués à l'intérieur en espérant pouvoir quand même rester. Et en fait, un élu local du PC, et par la fenêtre, tu vois, il nous a appelés et tout, donc on est allé regarder, et il a dit qu'est-ce que vous voulez un logement pour les gens avec qui vous êtes? Parce qu'en général, quand on faisait des occupations, on n'était pas que des militants, il y avait souvent des familles de sans-papiers. Hein,
oui.
Et donc, je peux vous aider, etc. Mm-hmm. Alors, j'étais avec Nicolas, et on s'est dit non, on le voyait venir avec son air batté, sa vue basse, mais il y avait deux autres personnes qui étaient restées avec nous et qui n'étaient pas anarchistes, donc pas aussi méfiants envers les élus, on va dire. Et donc, ils disent, oh, si, ça serait pas mal et tout. Tu parles, quand on a dit, non, faut réfléchir et tout, il a demandé à nous virer, il a déposé une plainte, on a été virés dans les heures qui ont suivi. Hein. Mmh. Et puis, il est venu nous voir au commissariat parce que il voulait savoir, en fait, sonder pour savoir qui on était. Il a bien vu, en réalité, que dans l'histoire, il y avait des familles, mais il a raconté aux jeunes militants PC que, en fait, c'était un truc, une manœuvre politique, on était téléguidés par les Verts, qui étaient un peu leurs rivaux sur place, enfin, c'est un truc de grenouillage. Oui. Et puis, pour l'aide, il a dit, si vous voulez, j'appelle le 115. On m'a dit, c'est gentil, mais on sait faire.
On sait ce que c'est.
C'était ça, le truc qu'il te proposait. Bon, normalement, ça te guérit un peu. Et juste une petite anecdote marrante par rapport à comment les clochards et SDF peuvent être dupes de leur côté, des bonnes intentions bienveillantes et tout. C'est qu'à un moment, une période électorale, il y avait une politicienne qui était venue visiter un centre d'accueil. Mais tu sais, vraiment, la bouche en cul de poule avec le tailleur Chanel et tout. Et en fait, c'est marrant parce que j'ai su par des copains qui étaient sur place comment ça s'est passé en vrai. La version des médias, c'était qu'ils étaient très, très émus. Les clochards, les SDF, étaient super émus de voir cette bienveillance envers eux, qui les avait chaudement remerciés. Alors qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une espèce, ils s'étaient mis d'accord pour faire une... Ça les dégoûtait, tu vois, donc... Pour faire une espèce de scène de tonneau de bombes et tout, tu vois. Et puis que les clodos s'étaient bien mis les mains dégueulasses pour s'essuyer les mains sur son beau tailleur Chanel. Voilà. C'était juste une note d'humour sur un sujet qui n'est pas très drôle, quand même, à la base. Ouais. Donc, on écoute une musique. Tu me disais que le chanteur de la Souris Déglinguée est décédé récemment.
Oui, Ty Luke. Le chanteur de la Souris Déglinguée. Je rallume. Ah oui, voilà. Et du coup, on va écouter Rock'n'Roll Vengeance.
De la Souris Déglinguée, non ?
De la Souris Déglinguée, ça devait être en 1980.
Et moi une chaîne, chaîne à vélo, monopole de la violence contre ma délinquance. Pourquoi as-tu peur quand tu contrôles les médias? Pourquoi as-tu peur quand tu contrôles les médias?
Est-ce que tu le sais? Pourquoi je te hais? Pourquoi je me bats toujours contre toi? Je cherche à détruire tous tes préjugés. Je cherche à détruire tous tes programmés.
Génération, destruction. Un peu de vengeance sur ta peau blanche. Soir, la jeunesse s'amuse, elle claque son fric dans les discos juifs. Et mes copains sont dans la rue, place de la République. Trop arabe ou trop nègre, on est coincé dès l'entrée. On finit par la vengeance, tous nos rêves sans conséquence.
Est-ce que tu le sais? Pourquoi je te hais? Pourquoi je ne parle?
destruction. Un peu de vengeance sur ta peau blanche. Un peu de vengeance sur ta peau blanche. 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 Blanche.
Voilà, c'est toujours Radio Libertaire et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie.
Donc, oui, Louis, si tu peux lire un autre passage du livre, donc Le sang nouveau est arrivé, de Patrick Declercq.
Oui.
Donc c'est à propos de lois qui avaient été des lois qui avaient, je sais plus quel, c'était un genre de Sarkozy, enfin tu sais, je retiens jamais les noms des politicards, mais qui soi-disant avaient promu des lois pour par rapport aux problèmes de des gens dans la qui dorment dans la rue l'hiver et qui en meurent. Ben, quand c'est spectaculaire, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Il meurt le reste du temps, hein, mais ça émeut plus les gens en hiver. Et chaque hiver, ils redécouvrent, c'est ce que dit Declercq, mais c'est la vérité, vous avez pu le constater, on redécouvre que l'hiver fait froid. Voilà.
Voilà, il y a trois niveaux d'intervention. C'est niveau 1, mobilisation hivernale, niveau 2, plan grand froid, et niveau 3, froid extrême.
Voilà.
Que se cache-t-il derrière cet énoncé du pouvoir, ces précisions exhaustive, ce phrasé affairé. Lit-on un protocole d'aide et de sauvegarde des vivants? Y trouve-t-on un réel et pragmatique souci des plus pauvres et des plus faibles? Qui peut sérieusement le croire? Décembre à mars, moins 10 degrés, au-delà de moins 10 degrés, 120 places supplémentaires? Allons, ce n'est pas d'une déclinaison progressive de l'accompagnement qu'il s'agit ici, mais d'une graduation des seuils de tolérance à la souffrance, à l'hypothermie et à la mort. Tolérance, rien moins, en définitive, qu'à la torture. La torture, et tolérance de quel point de vue? Du leur, mais non, d'une autre, évidemment, nous autres. Toujours nous, les bienheureux, les gras, les bien chauffés. C'est encore de nous qu'il s'agit, nous, les travailleurs, les contribuables, les citoyens, les vrais. C'est de notre tolérance qu'il s'agit, de notre tolérance à la souffrance des autres, au spectacle de leur souffrance et de leur mort. C'est de notre regard qu'il s'agit. Ce sont nos yeux qu'il faut protéger, nos sensibilités qu'il importe de ménager, notre culpabilité qu'il faut doser. Et surtout nos valeurs à maintenir. Ce n'est rien moins qu'une limite thermique au contrat social qui est figuré ici. En deçà des seuils définis, votre mort éventuelle dans la rue fera scandale car elle relève de la responsabilité de l'État et de la société. Au-delà, elle sera de votre fait, inévitable conséquence de vos choix existentiels masochiques et finalement non-événements. Le masque tombe. Ce protocole hivernal, comme tout document de ce type, est moins l'annonce d'une mesure d'aide que l'énoncé encrypté d'une morale. D'une morale et de ses inévitables compagnons, le permis, l'interdit et le punitif. Il définit moins des seuils d'aide qu'il n'établit en vérité une tarification du péché. Du péché d'oisiveté, d'anormalité, d'incapacité à être. De l'impardonnable péché de monstruosité sociale. Tarification, orthopédie et gymnastique, on va, il le faudra, marcher enfin droit. On va, il le faudra, marcher dans la nuit, sans but, sans autre fin que l'attente du matin et l'ouverture des gares et du métro. Marcher pour ne pas s'assoupir, car dormir est mourir. Marcher derrière le soleil pour enfin le rattraper à l'aube et que s'en trouve que s'entr'ouvre enfin quelque part alors un peu de chaleur. Anfractuosité thermique dans laquelle, comme des rats fébriles, on se précipitera.
Ben, d'ailleurs, je veux dire, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tous pu constater. On reproche quand même, puis tout ce qui est mis en place pour empêcher, par exemple, c'est assez incroyable, tout ce qu'on peut mettre en place pour empêcher les clochards de s'asseoir. Enfin, je veux dire, ce que sont devenus les bancs, et il y a des dispositifs qui sont complètement inouïs. Enfin, j'ai vu, il y a une espèce de concours, je sais plus comment ça s'appelle, où on envoie des photos des pires dispositifs qu'on a pu mettre en place pour empêcher des clochards de se mettre à un endroit. Et en effet, l'idée qu'on peut même pas les voir, quoi, tu vois. Je soupçonne, je me suis pas renseignée, mais quand il y aura les Jeux Olympiques, ça m'étonnerait qu'on intensifie pas ce processus. Dans Les Naufragés, De Clercq insiste sur le flicage des clochards qu'on ramasse pour les mettre ailleurs, quoi, pour qu'ils soient invisibles.
Oui, on voit des bus avec écrit dessus recueil social.
Voilà, c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que effectivement, ça fait tache dans le décor, quoi, que ce serait ça le problème, en fait. Donc, je pense que c'est un truc qu'on a tous pu remarquer, cet état de fait. Et je pense que c'est surtout ce qui peut être... je pense aussi qu'en ce qui concerne, puisque c'est l'émission L'Entonnoir, tout ce qui peut être comportement déviant, n'est-ce pas, entre guillemets, eh bien, c'est pareil. Le truc important, c'est de les mettre un peu au placard, quoi, qu'on les voit pas.
Oui, c'est cette histoire-là que ça nous raconte. Cette histoire d'anormalité, de déviance, et donc ce spectacle qu'il ne faut pas voir, qui doit disparaître.
Voilà. Oui, et puis en effet, on se dit que l'idée que c'est nous que ça dérange, on l'a même vu quand on était, par exemple, sur des luttes par rapport au fait que les Roms étaient déplacés. Je ne sais pas si t'avais vu, par exemple, le camp de gitans qu'il y avait à Ivry, tu vois, et le maire d'Ivry qui envoie une lettre aux riverains, enfin ceux qui étaient à côté, en disant ouais, c'est pas marrant pour vous parce que des fois, ils sortent de leur... c'est une sorte de bidonville, mais on les voit, quoi.
Oui.
Ça doit pas être drôle, quoi. Tu vois, vraiment, dans le genre, on a mis des ordures dans le paysage, quoi. Hein. C'est quand même un petit peu ça l'idée générale, quoi. Donc, c'est vraiment... je trouve que c'est vraiment quelque chose de bien vu, quoi, ce qu'il dit là, que c'est effectivement le problème, quoi, quand ça se voit un petit peu trop. Et en effet, on va avoir... Il décrit comment tu peux... Même des gens très indifférents, quand t'as froid et que tu vois quelqu'un qui est dehors dans un froid vraiment de chien, que tu sais qu'il va dormir là, etc. Bah, on connaissait un gars qui était un jeune qui était SDF, mais qui était, comment dire, très très alcoolique, donc qui effectivement était au bord de devenir, enfin, comme il était très jeune, c'était moins voyant, quoi, mais enfin, il était quand même au bord de devenir quelqu'un, comme ils disent, en très grande désocialisation. Et il expliquait que le soir de Noël, des fois, les gens le voyaient dormir dehors, ça arrivait qu'on lui glisse même des sous dans les poches, enfin, qu'il faisait recette. Il y a un truc dont il parle aussi, qu'on a pu constater, ils tiennent beaucoup à avoir un chien, parce que les gens donnent des sous pour le chien.
Oui.
Oui, c'est vrai. Mais donc, ça en dit quand même un peu long sur l'idée du peu d'empathie, en réalité, qui peuvent susciter. Il parle aussi d'ailleurs de tout ce qu'il peut y avoir. Enfin, il y a ce truc là, je parlais de sœur Emmanuel et mère Teresa, mais des gens qui ont des idées reçues sur la pauvreté en général, mais sur les clochards en particulier, il y en a beaucoup sur cette idée que, ouais, mais tu vois, par exemple, il y en a, ils le veulent, mais ils le veulent pas, c'est pas dans ce sens-là. Enfin, ils veulent pas, ce qu'ils veulent, c'est pas, on peut pas les normaliser, mais ça veut pas dire qu'ils veulent pas, enfin, je t'ai parlé de mon frère, mais enfin, ils citent des exemples, d'autres exemples, ils veulent pouvoir s'en aller quand ils veulent et revenir quand ils veulent. Mais de temps en temps, ils peuvent avoir besoin, même mon frère, quand il avait trop peur, ayant des crises d'angoisse, de peur, pouvait aller demander des médicaments. Et puis après, il n'en prenait plus. Et puis après, il en revoulait. Enfin, tu vois, il faudrait s'adapter à cette demande. Mais comme c'est des gens qu'on comprend difficilement, que ce soit les gens qui sont dits schizophrènes ou ceux qui n'ont pas envie de vivre normalement, ben, on essaye de les faire rentrer dans des cases, on se projette en eux. Ou alors, c'est l'altérité totale, et puis c'est parti pour des fantasmes, quoi, comme les bonnes sœurs, là, qui s'imaginent qu'ils sont super... ils n'ont pas besoin de tranquillisants, ils sont super contents, tu vois. Donc, bah, les gens qui sont même dans la misère, hein, sans parler des clochards. Il y a beaucoup de... J'ai entendu hein, des gens dire des trucs comme ça, ben, les pauvres s'ennuient, ont plein de pathologie, tu vas pas bien quand t'as du pognon, alors que quand t'en as pas, tu t'amuses comme un petit fou. Tu vois, je veux dire. Non, mais j'en ai entendu dire des trucs comme ça. Ouais. Voilà. Une petite musique, peut-être que... Non, oui. Tu veux?
Oui, allez, on va faire.
Je suis tombé amoureux d'une putain de zone. Depuis le jour où je l'ai connue, elle me colle à la peau. D'ailleurs toi tu la connais, aussi bien je la connais, puisque tu es né sur la zone. Sur la zone, sans point jusqu'à million coups, de Playel jusqu'à Sarcelle. Sur la zone, et tout là-bas, tout au nord, on l'a aimé la première fois. Elle avait un seul nom, et son nom c'est la zone. Quand elle m'a dit je t'aime, y'a Bastia, les Patricia, Saïd et tous les autres, François Pérez, les frères, les meilleurs et j'en passe. Ils ont pas voulu sortir, ils sont restés là-bas, car ils m'ont dit que tout est mieux sur leur zone. Et sur la zone de Savoie jusqu'à Lignancourt, de Playel jusqu'à Sarcelles. Ouais, là-bas, sur la zone et tout là-bas, tout au nord, on l'a aimé la première fois. Elle avait qu'un seul nom et son nom c'est la zone. Quand elle m'a dit je t'aime.
C'était encore un hommage à Tai Luc, chanteur de La Souris déglinguée, décédé ce vendredi. Alors, on continue donc la lecture de un extrait du Sang Nouveau est arrivé, Le Sang Nouveau est arrivé de Patrick de Clercq. Et il s'agit du mot dignité. Ah, la dignité! Il faut qu'il aime ça, le pauvre. À défaut, on le lui apprendra. Et il faut qu'il en redemande. Et surtout, qu'il ne s'en lasse jamais. le mendiant, le trimardeur, de contempler sa statue de stoïcien. Statue en pied, et creuse bien sûr, et qui ne sert que de perchoir à quelques pigeons malpropres, mais tout de même. L'effort humain se doit, c'est l'évidence, de regarder l'avenir debout. Et qu'il ne détourne pas les yeux, surtout, Clodo, de sa version idéale de cette image d'Épinal de lui-même. Pauvre, mais digne. Démuni, mais droit. Tout nu, mais tenant fièrement la pose. Grotesque, oui, mais un pas vide. Cela risquerait sinon d'être dangereux, de tourner vite mal, peut-être même à l'insurrectionnel des fois, qui sait, rien que d'évoquer la caresse de soie noire de cette éventuelle, bien éventuelle et toute lointaine possibilité, à Neuilly déjà on ferme les volets, on barricade les portes, on tétanise les muscles fessiers, on rêve de Suisse. Dignité et mérite, donc. Mais dignité pour quoi faire? Pour mériter quoi? De qui? Pourquoi? Escroquerie. Il n'y a rien, en définitive, à mériter que, de temps en temps, un peu de soupe tiède et peut-être un morceau de couverture sale. Et puis quoi? Est-il enfin plus digne lorsque l'on est conduit à l'échafaud qui est là, dressé, et qui vous attend dans le silence d'un petit matin acidulé et brumeux, de marcher lentement, la tête haute, le regard lointain et la lippe ourlée d'un sourire de fin mépris, ou au contraire de hurler comme une bête qu'il faut traîner à l'abattoir, de sculpter de chaque orteil épouvanté dans la terre qui s'en moque bien de sanglants sillons, s'arc-bouter tout son être d'un non archaïque et viscéral, de tenter enfin d'arracher l'oreille du bourreau d'un coup de dent, où là-dedans se cache-t-elle donc la vraie dignité? Qui peut le dire? Qui s'arrogera la trop cruelle impudence de trancher?
Donc, ben, voilà, je pense que ça résume bien un peu la question de savoir sur la question de la charité, de oui. Effectivement tous ces fantasmes qu'il peut y avoir sur la misère et sur le traitement de la misère dans le cadre de cette société finalement.
Voilà. Oui, de quelque chose qui viendrait comme ça finalement qui serait le destin de chacun et de tous, un peu comme le karma chez les Indiens, il n'y a pas d'explication possible ni de comment dire, ça vient du ciel ou de l'enfer.
T'as pas de chance.
Voilà, t'as pas de chance, voilà. Tout ça. Voilà. Alors que bon, effectivement, ça occulte la dimension politique et que nous vivons dans une société de classe, etc.
Et puis ça, pour des révolutionnaires, ça montre qu'en effet, y a la dignité, c'est de se révolter, quoi, finalement, quand même. Parce que c'est révoltant, c'est tout.
Merci Sylvia, et on se dit donc à la semaine prochaine. L'émission est terminée pour aujourd'hui. Au revoir, salut. Et on écoute. On vous propose un récital de Fantasio et les Turbulents. Voilà.
Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Pas de panique, les gars. Tout va très bien. C'est bientôt fini. Gersergue. Squelette ballon. Pas mal, hein? C'est ce qu'ils appellent un rarade bras de géant. Rossissez-vous, Anjo. Éliminez les feux à volonté. Chef, il y a un problème. Il y a un problème, regarde. Nos armes, c'est pas vrai. Comment est-ce qu'il fait ça? C'est pas la question que vous devez vous poser. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Hey, c'est mes jambes, je les reconnais. Et celle-là, il est à qui alors? En direct d'un bus centro, j'y peux rien. Comme gomme, giga de pistole. Prenez ça dans vos tronches. Eh ben, ils ont bien m'en fait céder, hein. Je n'en crois pas mes yeux. En avant, les gars. Ouais, capitaine.
On avait une annonce à faire. Voilà, donc on l'a fait maintenant.
Oui, voilà, demain à Publico, à partir de 19h, mais enfin Publico est ouvert avant, donc vous pouvez arriver avant. Donc Publico 145, la librairie Publico 145 rue Amelot, métro République Oberkampf, fille du Calvaire. Et donc, ça sera la projection d'un film de Maurice Pialat, qui s'appelle Passe ton bac d'abord, et qui c'est un petit peu comme les Lascars du LEP électronique, c'est assez joué par des jeunes, c'est en 78, hein, c'est un film de 78, et c'est les rôles des jeunes sont tenus par sauf une seule actrice professionnelle, par des jeunes dont d'ailleurs on n'a jamais eu aucune nouvelle, qui habitent dans le Nord et qui refusent de d'avoir le même destin que leur père mineur ou ouvrier. C'est moins politique quelque part que, enfin c'est politique en soi, mais eux, c'est juste qu'ils ont pas envie du tout de cette vie là quoi. Mais c'est vraiment, enfin moi j'adore Pialat de toute façon, donc je trouve que c'est un film qui est vraiment génial. Donc voilà, on aura une discussion après pour savoir si on trouve que les choses ont changé, que la situation de jeunes qui sont comme ça à la croisée des chemins et qui viennent en particulier de milieux, on va dire, carrément pas favorisés, si les choses ont changé depuis cette époque-là par rapport à l'idée de quel avenir tu as quand t'es fils de ouvriers mineurs et ou même employés, mais enfin de gens qui peuvent pas pistonner, booster leurs enfants. Voilà. Donc ça s'appelle Passe ton bac d'abord et c'est demain à partir de 19h et c'est organisé par le groupe Libertaire d'Ivry dont je fais partie.
À Publico, merci. Oui.
If you still don't say a word, and if you still don't speak, that means that these tricky words were bound to make you sick. Oh, baby, you. Well, I'd like to spend a night, baby, how to learn silence with you. If you still don't say hello, you don't say goodbye, that means that these tricky words were bound to make you cry. Oh baby, well I'd like to spend all night, baby, how to learn silence with you.
Le camion bleu démarre plus. Il n'y a plus de batterie, il n'y a plus d'essuie-glace, il n'y a plus de levier de vitesse, il n'y a plus de pneus, il n'y a plus de phare, il n'y a plus d'anti-brouillard, il n'y a plus de clignotant, il n'y a plus de marche-pied, il n'y a plus d'autoradio, il n'y a plus de cendrier, il n'y a plus de blouse blanche, il n'y a plus de plaque 60, il n'y a plus 936, il n'y a plus un WY, il n'y a plus rien. Elle est pétée, le carreau est cassé, il n'y a plus les vides, il n'y a plus de boîte à gants, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'antenne de téloge, c'est de la merde, il reste à faire un neuf, la batterie est pétée, elle est niquée, Greg ne va jamais le réparer, il vient de la Belgique.